Médecin directeur de la clinique Ngaliema de Kinshasa, le docteur Pascal Tchamalakachala est aujourd'hui l'invité de Grands Témoins. Docteur Tchamala, soyez le bienvenu.
Merci.
Comment allez-vous?
Je vais bien.
Médecin directeur de la clinique Ngaliema, l'une des formations médicales les plus réputées de Kinshasa. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce complexe?
La clinique Ngaliema a été construite vers les années 1927, lors de la colonie. Et successivement, elle a été dirigée par des médecins belges. Et puis, par la suite, le gouvernement congolais à l'indépendance a travaillé avec les Belges dans le cadre d'une coopération. En 1990, lors de la rupture de la coopération avec la Belgique, jusqu'à ce jour, c'est un hôpital de l'État qui est géré par des Congolais.
Vous employez à peu près combien de personnes?
Nous avons plus ou moins 800 agents. Si on compte 5 personne par famille, ça ne fait 4000.
C'est beaucoup, oui. Alors, nous avons parlé des conditions de travail à la clinique Ngaliema, mais avant, je vous propose de suivre ce reportage de Denis Maéo sur le centre de Kasese dans la province du Katanga.
Nous sommes au centre de Kasese. C'est une structure qui accueille essentiellement les agents du centre pilote. Toutefois, les habitants de la cité de Kasese y sont également soignés. Actuellement, le centre de santé de Kasese fonctionne difficilement. Nous commençons par visiter le laboratoire. Monsieur, c'est lui le laborantin, nous accueille. Devant lui, un microscope apparemment en panne.
Il manque un miroir et puis il y a d'autres aussi microscopes qui sont en panne. Comme nous utilisons ça, nous prenons le miroir de la maison et puis utilisé pour recueillir de la lumière. Il est en mauvais état. On utilise comme ça seulement pour aider la population.
De là, nous nous dirigeons dans la salle d'opération. Pas de matériel, pourtant les interventions y ont lieu. On pourrait dire que le médecin fait de la magie pour sauver les vies humaines.
Nous avons des bocaux pour un aspirateur, mais qui manque de moteur. Donc si nous avons une laparotomie ici, donc on se bat avec les compresses pendant 2 heures pour vider l'abdomen.
Et qu'en est-il de l'énergie électrique, docteur?
Carrément, on utilise une lampe torche, soit des bougies. La dernière fois qu'on a fait une césarienne, c'était avec des bougies.
Dans les salles d'hospitalisation, certains malades passent nuit sur des planches. Nous clôturons cette visite par la pharmacie. Ici, seules quelques boîtes à moitié vides sont encore visibles sur les étagères. Lumbashi, Denis Maéo, Radio Okapi.
Docteur Pascal Tchamala, comment réagissez-vous à ce reportage?
C'est très triste. Très triste parce que les gens travaillent dans des conditions vraiment inacceptables pour la santé. C'est vraiment inacceptable. Mais malheureusement, c'est la situation qui prévaut presque dans l'ensemble du pays. Il ne faut même pas aller à Lumbashi pour ça. Hein. Dans certaines communes ici à Kinshasa, vous allez trouver les mêmes conditions.
Mais ces conditions de travail sont loin d'égaler celles de la clinique Ngaliema que vous dirigez.
Il est vrai que on peut pas se plaindre par rapport à ce que nous venons d'entendre. Nous avons quand même des salles d'opération qui ressemblent à des salles d'opération avec des vraies tables d'opération, etc. À ce point de vue-là, nous n'avons pas à nous plaindre, mais quand même, à notre niveau, on pourrait avoir mieux.
Quels sont les problèmes spécifiques à la clinique Ngaliema?
Les problèmes spécifiques sont des problèmes par rapport aux ressources humaines, par exemple. Les ressources humaines, nous avons, comme je vous ai dit, 800 agents. Et 800 agents, il y a plus ou moins la moitié qui est... Parce que nous sommes des agents de l'État. Ça aussi, il faut savoir, la clinique Ngaliema, ce n'est pas un hôpital privé, c'est une institution de l'État. Et donc, tous ceux qui travaillent là-bas sont des fonctionnaires. Et parmi ces 800 agents, il y a plus ou moins la moitié qui devrait partir à la retraite, qui a déjà eu au-dessus d'une cinquantaine d'années, et malheureusement, ils ne savent pas partir à la retraite. Et en même temps, nous avons à notre porte des jeunes gens qui viennent d'être diplômés, qui aimeraient bien travailler à la clinique Galliema, mais on ne sait pas les engager. Donc, par rapport aux ressources humaines, il y a une situation paradoxale. Il y a d'une part pléthore d'agents, mais d'autre part une carence en agents. Pléthore parce qu'il y a des gens qui devraient partir, mais qui ne partent pas, et une carence parce que ces gens-là n'accomplissent plus le travail qu'il faut. Il y a d'autres personnes qui pourraient le faire, mais qu'on ne peut pas engager. Ça, c'est par rapport aux ressources humaines. Par rapport aux ressources financières, nous vivons pratiquement sur les recettes que nous faisons sur la population. Donc, nous ne recevons pas
de subventions, pas d'aide de l'État.
Bon, l'aide de l'État vient sous forme de salaires qu'on donne aux gens, qui ne sont pas très conséquents, mais enfin, c'est déjà ça. Ça vient sous forme de bâtiments qui appartiennent à l'État. Ça vient sous forme de temps en temps un équipement, on vous achète un microscope, etc. Mais pour les frais de fonctionnement, nous n'avons qu'à compter sur nos propres recettes que nous faisons chaque jour.
Avec ces frais de fonctionnement, vous vous en sortez quand même mieux que d'autres centres hospitaliers. Pourquoi pas? Parce que la clinique en Galliema, c'est pour les nantis?
Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est aussi une image que les gens ont dans la tête. Les nantis, quand ils sont malades, ils ne viennent pas à la clinique Galliema, ils vont ailleurs. Mais c'est notre façon de gérer qui fait que nous avons peut-être un peu plus des gens qui viennent. C'est-à-dire, nous avons un système qui consiste à recevoir les gens qui viennent et à leur donner le premier soin. Une fois que ces premiers soins sont passés et que la situation est plus ou moins stabilisée, alors à ces moments-là, on réclame le paiement. Parce que il est vrai que les gens, quand ils sont malades, ils n'ont pas prévu de tomber malades. Alors, quand ils viennent à la clinique, ils sont souvent les poches vides. Et c'est peut-être cela qui fait que nous avons un peu plus de gens qui viennent, d'une part. D'autre part, nous avons aussi contacté des conventions avec des sociétés de la place. Et certains ministères, certains organismes de l'État, ce qui fait que nous avons là notre population hospitalière qui est plus ou moins fidélisée et qui vient consulter la clinique. Mais nous avons aussi des indigents qui, lorsqu'ils sont refusés par-ci par-là pour des raisons souvent financières, viennent frapper à notre porte et puisque le malade est là, nous devons absolument lui soigner.
Donc les prix sont abordables.
Abordable, ça dépend. Quand vous dites abordable, c'est par rapport au portefeuille de la population. Or, la plupart des personnes qui sont dans notre population ont un pouvoir d'achat qui est tout à fait presque nul. Les prix pourraient être abordables seulement quand on entre dans les cadres des conventions, etc., etc. Mais les gens de tous les jours, c'est quand même un peu élevé par rapport à leur bourse. Mais c'est là, on ne sait pas faire autrement, parce que même étant une institution publique, nous sommes obligés d'aller sur le marché des médicaments, acheter au même prix que les privés, les réactifs, etc. Tout ça, nous sommes traités de la même façon que tous les autres privés qui font la même chose que nous. D'où il n'est pas possible ni de faire des soins gratuitement, ni de baisser les prix, parce qu'alors, à un certain moment, on va se retrouver sans assez des ressources financières pour continuer à entretenir un travail qui est quand même apprécié par la population.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Docteur Pascal Tshamala Kachala, directeur général de la clinique Ngaliema de Kinshasa, vous le savez, depuis près d'un mois maintenant, les professionnels de la santé et le personnel non soignant sont en grève. Ils ont entamé la dernière phase de leur mouvement de grève. Selon le secrétaire général du syndicat des cadres de santé et services 5A Sensible, le gouvernement a toujours affiché une indifférence totale aux revendications du personnel soignant, malgré les démarches menées auprès de lui par les syndicats. D'où le déclenchement de la grève illimitée sans un service minimum. Conséquence, déjà sur le le terrain, on enregistre de plus en plus des décès dans les hôpitaux publics. Selon M. Kamba, directeur chargé d'études à l'hôpital général de Kinshasa, on y dénombre 7 morts par jour, tandis qu'à Mbanzangungu, dans la province du Bas-Congo, on compte 36 morts pour le mois de septembre. Cette information est livrée par Robert Lukebana, président des forces vives de Mbanzangungu. Pour votre cas, la clinique Ngaliema, qui est l'un des grands centres hospitaliers de Kinshasa, comment vous vous y prenez pour soigner les malades dans cette période de grève?
Mais on est ici très embêté parce que, comme vous savez, ce sont effectivement des syndicats du secteur public qui sont en grève et donc nous sommes aussi frappés. Nous avons la catégorie des administratifs et des catégories des paramédicaux, donc infirmiers et techniciens qui sont en grève. Heureusement, nous avons sous la main la catégorie des médecins et c'est avec ces médecins que nous essayons d'assurer un service minimum. Mais dans tous les cas, on est vraiment très embêté par cette grève. Et bon, par rapport aux chiffres que vous venez de citer, je ne sais pas d'où ils sortent, parce que tous les services, même administratifs, sont en grève. Alors, où est-ce qu'on enregistre les morts, etc.? Bon, il y en a certainement, mais...
Et à la clinique Ngaliema, il n'y a pas encore de morts?
Mais les morts, ça fait partie de la vie d'un hôpital. Hein. Il y a des morts, mais il n'y a pas de morts parce qu'ils n'ont pas eu une assistance médicale.
Mais ce n'est pas nécessairement lié à la grève.
Bon, la grève embête beaucoup la population parce que je ne sais pas si les grévistes pensent que ça dérange le gouvernement, certainement, mais encore plus la population. Et bon, nous avons des lenteurs d'exécution de certaines tâches que nous devons faire, mais ce qui est fait dans le sens de conserver la vie.
Pensez-vous que cette grève soit légitime?
Bon, je pense que la grève est inscrite dans la Constitution, donc les grévistes ont le droit de faire la grève si les revendications n'ont pas trouvé des échos, mais seulement dans la Constitution. Il est aussi prévu que dans le domaine comme la médecine, on ne peut pas faire une grève blanche. Il y a des articles de la Constitution qui garantissent cela. Malheureusement, ce n'est pas respecté dans ces cas-ci, et dans ces cas-là, ce n'est pas une grève qui soit une grève telle que c'est prévu dans la Constitution.
Mais vous-même, médecin, étiez en grève dernièrement. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là?
C'est vrai qu'à un certain moment, on a lancé le mot d'ordre de grève en disant hôpitaux sans médecins, mais c'est anticonstitutionnel. Ça, si on l'a fait, on l'a fait, mais c'est anticonstitutionnel.
Et le serment d'Hippocrate, qu'est-ce que vous en faites?
Mais c'est pas parce qu'on fait le serment de grève, qu'on fait le serment d'Hippocrate qu'on ne peut pas faire la grève. Dans le serment d'Hippocrate, il est prévu que lorsque vous ne pouvez pas vous occuper d'un patient, vous devez vous assurer qu'il est entre de bonnes mains pour pouvoir continuer les soins. Et c'est là, en fait, l'ouverture pour un service minimum.
Radio Capi, grand témoin.
Docteur Pascal Chamalakachala, le 25 juillet 1950, vous naissez à Lusambo, dans la province du Kasaï-Oriental. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Bon, je ne sais pas, parce que je ne peux pas me rappeler. Il faudrait demander à ma mère, mais il n'existait plus. Je pense que je n'étais pas un enfant à problème. C'était un enfant comme tous les autres enfants, et je n'ai jamais eu un témoignage qui disait que j'étais
turbulent ou...
Non, j'étais pas turbulent. J'étais plutôt, comme je suis l'aîné d'une famille, on a fait tout pour faire en sorte de me mettre dans la tête le sens de la responsabilité des personnes et des biens. Oui, c'est vrai.
Alors, Chamalakachala, que signifie votre nom?
En fait, mon nom, je l'ai hérité de mon grand-père. Le nom complet, c'est en fait Chamalakachala Kongol. Donc, il y a souvent les Kongols qu'on oublie. Ce sont des noms de mes trois arrière-grands-pères. Il y a le nom de mon grand-père, le nom du père de mon grand-père et du grand-père de mon grand-père.
Ah bon?
Donc, c'est ça, le nom.
Et ces noms n'ont pas de signification particulière?
Non, il n'y a pas de signification particulière, mais sauf que j'ai un surnom qui, lui, est particulier. On dit Chamalamukunza Umunambujikadimatamba. Chamalamukunza, c'est mère de Pau qui élève mange des chèvres et par conséquent qu'il ne va pas manger des feuilles de manioc.
En 1970, après vos humanités au collège Albert Ier, l'actuel collège Boboto de Kinshasa, vous vous inscrivez à l'université Lovanium en médecine. Parle-nous de vos études primaires.
Les études primaires, je les ai faites d'abord à l'Athénée Royale de Luabou, c'est là que mon père était.
À Kamanga.
À Kananga. Alors là, c'était bon, on allait à l'école, on nous prenait dans des bus, on nous déposait et puis on faisait ce qu'il fallait faire. On a appris à vivre en société. Là-bas aussi, on a fréquenté des associations, des scouts, etc. En 60, on a dû partir de Kananga parce que, étant du Kassai oriental, tout d'un coup, je découvrais que j'étais du Kassai oriental. Je ne savais pas que j'étais Mouloba par rapport aux autres qui étaient des Lulua. C'était un choc de savoir qu'on n'était pas chez soi. On a dû partir à Lusambo où je suis né avant de revenir à Kananga et venir à Kinshasa. Et à Kinshasa, j'étais inscrit à l'Athénée de Kalina,
l'actuelle Athénée de la Gombe,
et jusqu'en cinquième primaire, et c'est seulement après que j'ai été récupéré, si je peux dire, par des pères jésuites qui me voyaient passer chaque matin sous leur fenêtre pour aller à l'école. Ils m'ont proposé d'aller au collège, et voilà, j'étais inscrit au collège Boboto où j'ai eu une enfance extraordinaire, aussi bien à l'école primaire que secondaire, parce que on a pratiqué tous les arts,
tous les sports,
on était des champions et c'était formidable.
Alors citez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Oh là là, j'ai mon ami de tous les jours, c'est le docteur Ronald Chilunda Mutombo, Joseph, que je salue s'il m'entend, qui est à Mbujimayi, qui est le, je dirais, le responsable du service social et médical de Mbujimayi. Il y a mon ami Léonard, qui est là-bas aussi en Mbujimayi. Il y a le docteur Nyakabassa, qui est ici maintenant à la clinique Galema avec moi, et tant d'autres. Je ne voulais pas tous les citer pour ne pas froisser ce que je n'ai pas.
Évidemment.
Oui, c'est ça.
Alors, en 1977, vous devenez docteur en médecine, chirurgie et accouchement de l'université de Lovanium, campus de Kinshasa. Ensuite, vous vous spécialisez en médecine interne, gastro-entérologie et endoscopie digestive à l'université libre de Bruxelles en Belgique. Expliquez-nous en termes simples cette option.
Enfin, l'option est la suivante. En fait, après la médecine générale, donc, où vous devez être apte à consulter, investiguer et soigner les gens, vous choisissez une spécialité. J'ai choisi la spécialité des maladies du tube digestif. C'est ça qui est donc gastro-entérologie. Gastro pour estomac, entérologie pour les intestins. Et comme ces deux organes ne vont jamais seuls, il y a aussi le foie, le pancréas, la vésicule biliaire et tout ça. Donc, ça fait hépato-gastro-entérologie. C'est un peu pompeux, mais voilà, c'est ça, simplement ça. Donc, les maladies du tube digestif. Le tube digestif, en médecine interne, c'est que ce sont des pathologies, des maladies qu'on n'opère pas. Pour les soigner, nous donnons des médicaments. Endoscopie, ce sont des investigations de cet appareil digestif qui consiste à introduire un appareil à l'intérieur de l'organe et de l'examiner de l'intérieur. C'est ça l'endoscopie. Et cette endoscopie utilise des techniques de fibres optiques. Et sauf que c'est ça qu'on parle parfois de fibroscopie œsophagienne quand c'est pour l'œsophage, gastrique pour l'estomac, colique pour l'intestin, laparoscopie pour regarder l'intérieur de la cavité abdominale.
Dès que vous quittez l'Europe, vous arrivez à la clinique Ngaliema directement.
En fait, je suis parti de la clinique Ngaliema. Quand j'ai terminé mes études, on nous a pris dans la fonction publique et là, j'étais à l'hôpital général. Actuellement, hôpital général provincial de référence de Kinshasa, qu'on appelle communément Mamaïma. Et là, j'ai à peine travaillé que les autorités de la clinique Ngaliema, où j'avais fait mes stages de fin d'année, ont demandé que je sois muté là-bas. Et c'est là que j'ai commencé ma médecine générale. J'ai fait 2 ans comme médecin généraliste. Après ces 2 ans, j'ai pu obtenir une bourse d'études pour aller faire mes études à l'Université libre de Bruxelles. Ça, c'est aussi un choix que j'ai fait parce que, bon, je voulais un peu voir comment ça allait chez les non-catholiques, parce que j'ai passé toute ma vie chez les catholiques, chez les jésuites, ce que je ne regrette pas, mais je voulais voir un peu s'il y avait des choses qui changeaient, mais en fait, les choses sont les mêmes, c'est surtout les hommes qui changent. Et c'est après avoir fait 5 ans à l'Université libre de Bruxelles, plus précisément à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, centre hospitalier universitaire de Saint-Pierre, que j'ai terminé en 85-86, que je suis revenu au pays, à la clinique Galliema, parce que je suis parti de là. Et ça aussi, c'était une condition. Il fallait que je promette de revenir pour pouvoir obtenir cette bourse. Ce que j'ai fait, je n'avais pas de difficulté. Et quand je suis revenu, j'ai tout de suite commencer ma carrière à la clinique Galliema, ça fait 30 ans.
Nous allons jeter un regard sur les conditions de formation des étudiants en médecine. Je sais que vous, vous avez étudié dans des très bonnes conditions, vous venez d'en parler. Je vous invite à suivre ce témoignage d'un étudiant en médecine, il est à Kinshasa.
Ancien étudiant à l'université de Kinshasa, mais actuellement je suis à l'université Simon Kimbangu, sur l'avenue Bongo. Je suis en biomédical, je fais la médecine. À l'université de Kinshasa, on était très nombreux dans les auditoires et puis parfois des professeurs ne tiennent pas compte de cela et puis on n'arrive même pas à bien assimiler le cours et aussi ils sont toujours obligeants par rapport à leur support. Là je parle de syllabus et consorts un peu.
Docteur Pascal Chamala, pensez-vous que les conditions actuelles de formation des médecins présagent des bons médecins pour le lendemain au Congo?
Non, c'est vraiment très difficile. Nous voyons ça au niveau des hôpitaux quand tous ces jeunes gens viennent faire leur stage dans nos formations médicales. Comme dit l'étudiant de tout à l'heure, ils sont 2000 dans un auditoire où il fait chaud, où le professeur n'a pas de micro. Enfin bref, c'est vraiment une image d'horreur. Alors, y a, les années académiques sont élastiques. Normalement, la médecine est sur 7 ans. Il y a des étudiants qui font 10 ans, 12 ans sans avoir doublé de classe. Bref, les conditions de travail sont tellement dégradées depuis le temps où nous avons été là-bas que actuellement, il est difficile de former des bons médecins dans ces conditions-là.
À l'ordre des médecins, vous êtes président de la commission éthique et discipline. Concrètement, comment ça se passe, ces fonctions?
Ben, ça se passe que moi, je suis au niveau national. Je suis président d'une commission. J'étais président d'une commission parce que depuis lors, on a fait des élections et nous attendons de mettre en place de nouvelles commissions. Mais j'étais président de la commission éthique. Ça consistait en ceci, lorsque un médecin a commis une infraction en matière d'éthique, de déontologie, il était dénoncé soit par une personne, soit par l'institution, et son dossier passait devant notre commission, la commission juridique. On devait traiter ces dossiers-là pour analyser la forme et le fond du dossier. Est-ce que dans la forme du dossier, est-il recevable? Bon, il est recevable, d'accord. Maintenant, on va juger la chose dans le fond. Et souvent, nous faisons assister des magistrats qui accompagnent cette commission dans son travail. Et donc, c'est un tribunal des médecins dans la pratique médicale. Ça ne fait pas que ce médecin échappe à la justice humaine, mais là, c'est une sorte de tribunal
en interne.
À l'interne, oui.
Vous avez quand même eu à sanctionner beaucoup de médecins, combien à peu près?
Et le problème, c'est que, bon, on n'a pas sanctionné beaucoup de médecins parce que les gens n'accusent pas. Les gens n'accusent pas, les gens se plaignent, mais il n'y a personne qui vient accuser, qui vient dire, bon voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela.
Peut-être qu'ils ne savent pas comment ça doit se passer aussi.
Mais bon, ça se passe parce que nous avons des commissions de proximité. Donc, dans chaque hôpital, il y a un organe qui représente l'ordre de médecins. Et cet organe-là est prêt à recevoir les plaintes s'il y en a sur les médecins qui travaillent dans l'institution. Ils ont le devoir, ou plutôt le pouvoir, d'examiner les cas à leur niveau avant de les transmettre au niveau provincial et enfin au niveau national. Mais ça ne se fait pas souvent, malheureusement.
Aujourd'hui, docteur Pascal Chamala, il se pose aussi un problème de clinique privée. C'est chaque médecin qui se bat pour en ouvrir, cela posant évidemment d'énormes problèmes sur la qualité de soins et même le prix. Quelle est votre appréciation? Est-ce une tricherie? Est-ce normal?
En fait, les cliniques privées, je dois dire que j'en ai aussi une, pour être honnête. ça vient du fait que, par exemple, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais formé en gastro-entérologie, en endoscopie digestive. Voilà que je reviens au pays, j'attends qu'on me donne des instruments de travail, parce que je suis pas parti pour revenir et continuer à traiter les ascaries, etc.
Les amibes,
qui sont aussi des pathologies, mais enfin, j'ai fait plus. Et voilà qu'on me le donne pas. Avec les petites économies, je parviens quand même à ouvrir un centre d'investigation, etc., où je peux faire les endoscopies. Enfin, je peux pratiquer ce que je suis allé apprendre. Voilà comment souvent les cliniques privées sont faites. Mais je ne dois pas non plus occulter le fait que de plus en plus des cliniques qui naissent par-ci, par-là, dans des conditions qui sont inacceptables, surtout pour des buts lucratifs. Et parfois même, elles sont très dangereuses. Et là aussi, l'inspection provinciale fait de son mieux pour pouvoir... d'abord, ils ont établi des normes. Avant d'ouvrir ce genre de clinique, il y a des normes qu'il faut respecter. Mais là où le bas blesse, c'est dans le suivi. Est-ce que ce centre médical donne des soins appropriés, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne se fait pas toujours. Et lorsque ça se fait, il y a toujours des gens qui ont des protections et qui font que l'inspection provinciale ne sait pas exercer son droit de surveillant, de
condamnablement,
effectivement, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour intervenir et dire « Attention, ne touche pas à mon pote ».
Avec le radio, il faut bien que les gens,
Nous allons clôturer cette émission, Dr. Pascal Chamala. Quel message pouvez-vous adresser à tous les jeunes médecins ainsi que ceux qui aspirent à ce noble métier et qui vous suivent en ce moment?
Ben, je dois dire que le métier de médecin, c'est un métier qu'on dit noble. C'est-à-dire, on le dit noble pourquoi? Parce qu'il y a des considérations qu'on ne devrait pas avoir pour pratiquer. C'est vrai qu'on est des êtres humains, on doit manger, on doit boire, on doit satisfaire aux besoins les plus élémentaires. Mais cela ne doit pas constituer l'essentiel. On doit, lorsqu'on choisit de devenir médecin, c'est d'abord pour pouvoir s'occuper des autres. Pour cela, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au hasard, il faut vraiment en avoir la vocation.
Docteur Pascal Chamala, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci beaucoup aussi de m'avoir invité.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Dr Pascal Chamala Kachala, directeur général de la clinique Ngaliema. À la technique et à la réalisation, Jean-Claude Nfiala. À la présentation, Alain Hirong. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Lusambo et partout dans le monde.